Nous enchaînons avec Sylvain Boulouk. Il est membre du CLOPS, c'est bien de le préciser, mais également et surtout enseignant et historien. Ses derniers ouvrages sont, pour le premier écrit sous sa direction et celle de Dominique Onconduit, Miliné et Missak Manouchian, une histoire française, la mémoire du groupe des 23. Pour le second, il s'agit de Meurtre à la Grange Aubel, quand les communistes flinguaient les anarchistes. D'ailleurs, son intervention est intitulée « Correspondance de Michel Ragon avec les anarchistes ». C'est à toi, Sylvain.
Je te remercie. Oh, je vais essayer d'être bref. Parce que je suis sûr que vous avez déjà faim. La correspondance de Michel Ragon avec les anarchistes, je vais en fait élargir le propos dans la mesure où la correspondance ne permettait pas d'embrasser l'ensemble des rapports de Michel Ragon avec le mouvement libertaire. Donc j'ai joué un peu sur les mots de correspondance et je vais m'en expliquer immédiatement. Juste pour mémoire, les rapports entre Michel Ragon et l'anarchisme commencent a priori avec son arrivée à Paris autour de 1947 pour ne jamais s'achever puisque jusqu'à sa mort il a entretenu des rapports assez étroits avec un certain nombre de militants. Et on pourrait même dire au-delà, puisque si on prend ne serait-ce que le dernier numéro du Monde Libertaire, il s'agit d'un hommage au compagnon Ragon. Alors, qu'est-ce que j'entends par, du coup, notion de correspondance, puisque ce ne sera pas que de la correspondance épistolaire, c'est à la fois des rapports entre les personnes. En effet, il y a eu un certain nombre d'échanges qui ont existé, mais qui se sont faits sous des formes orales. En deuxième lieu, si l'on en croit les écrits de Michel Ragon, et je ne vois pas pourquoi on ne les croirait pas, il y a un certain nombre de correspondances qui ont disparu. Et dans La Voix libertaire, par exemple, il fait état du fait que sa correspondance avec Louis Lecoing a grandement disparu. Alors même s'il reste deux lettres éparses, il n'y a pas la totalité de la correspondance. Donc, en fait, par correspondance, je vais beaucoup plus parler d'échanges intellectuels, des emprunts réciproques qui ont nourri le mouvement libertaire et dont Michel Ragon s'est nourri. Il s'agit en fait aussi d'un modèle, mais d'une pluralité interprétative qui repose sur à la fois des analogies de points de vue, qui représentent une forme de communion intellectuelle et militante, mais aussi de dialogue au sens dialogue intellectuel, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un échange à travers les œuvres, la presse, et d'un mouvement de va-et-vient. Alors, il y a deux dimensions principales. Il y a d'une part les collaborations nombreuses et variées de Michel Ragon à la presse libertaire, où il apporte un certain nombre d'idées qu'il propose et qu'il suggère au débat, que ce soit dans ses articles dans Défense de l'Homme, dans La Rue, dans Le Monde libertaire, je l'ai mis dans le désordre, et inversement, un certain nombre d'écrits qui vont... Alors, non pas d'écrits de correspondance, mais d'écrits notamment par la mémoire des vaincus, et on verra un peu plus tard dans la construction qui peut exister, d'autres écrits qui sont des incitations au débat, au dialogue et à l'échange avec le mouvement libertaire. Les ouvrages principaux qui sont utiles pour comprendre ce dialogue ou pour voir cet échange, il y en a plusieurs. Bien évidemment, La mémoire des vaincus, dont je vais reparler relativement longuement, parce qu'il y a une construction qui a, à mon avis, une signification. Et après La mémoire des vaincus, surtout La voix libertaire, le dictionnaire de l'anarchie, je laisserai finalement de côté, j'avais prévu de les inclure, mais les ouvrages autour de la Commune de Paris, puisque c'est plus une œuvre mémorielle qu'une œuvre militante, même si on peut faire avec la mémoire, on peut faire du militant. Et puis un dernier, les ouvrages d'autobiographie entre guillemets, que sont le dialogue Alors, il y a d'une berge à l'autre, et puis le trou de mémoire, j'en ai connu des équipages. Donc, c'est cet ensemble de textes qui va permettre de voir comment c'est constitué, confronté, et comment a existé le dialogue. Et puis, quand même, comme j'ai travaillé sur, grâce à Françoise, les archives de Michel, j'ai essayé de faire une typologie de quelle pouvait être, alors, d'après ce qu'on a comme élément, la correspondance, quel type de correspondance, là, pour le coup, écrite, il pouvait exister entre la pensée, enfin entre Ragon et les militants libertaires. Alors donc pour en effet donc Ragon a été un des rares à utiliser. Alors c'est plus maintenant le cas, mais il a lancé entre guillemets, alors c'est peut-être un bien grand mot de dire lancer une mode, mais en tout cas il a lancé un style qui est d'utiliser l'anarchisme comme forme romanesque, et en retour les libertaires lui ont essayé de lui montrer que, enfin, n'ont pas essayé de lui montrer, ils lui ont rendu une certaine forme de on va dire d'admiration, parce qu'il devenait par cette forme littéraire l'apôtre de l'idée, et c'est bien ce mouvement de va-et-vient que je vais essayer d'analyser, entre voir comment Michel Ragon a essayé d'utiliser la mythologie, les mythes et la réalité de l'histoire libertaire, et comment en retour les libertaires se sont nourris de ses propos. Donc, pour voir quelle forme ça pouvait prendre, quelle forme pouvait prendre cette correspondance. Alors, je retiendrai trois thèmes principaux. D'abord, correspondre aux idées libertaires à travers la mémoire des vaincus, et mettre en valeur les idées libertaires à travers les mémoires des vaincus. En deuxième lieu, vulgariser les idées libertaires à travers un certain nombre d'ouvrages. Et voir en fait, à travers quelques sources qui sont représentatives, voir en fait quelle peut être la nature des échanges qui a pu exister, ce qui veut dire quelle est la réception en fait dans le milieu libertaire de l'œuvre au sens large de Michel Ragon. Donc, comme je vous l'ai dit, Ragon a depuis 1947 toujours fréquenté le mouvement libertaire, et à l'aune des années 1990, je pense que c'était un projet en fait qu'il mûrissait depuis un certain temps, il a voulu mettre en récit et en roman l'histoire de l'anarchisme, mais pas que peut-être, lui donner une autre portée, et peut-être porter cette histoire auprès d'un public beaucoup plus large. Du reste, on peut penser que ça a été une réussite, hein, puisque quand on regarde le succès de la mémoire des vaincus, la réception et l'accueil de la mémoire des vaincus va du Figaro à la presse libertaire, et avec un accueil qui est très favorable et qui est salué de manière très élogieuse. C'est donc ce qui veut dire que la mémoire des vaincus a largement en fait dépassé les sphères libertaires, même ce qu'il a pour la communication en tant que telle. Ce qui m'intéresse, c'est plus la réception dans le mouvement libertaire, qui est là, à une ou deux exceptions près, on peut penser que le public était grandement conquis à l'avance, même si la force du roman et du récit fait que ça a suscité un certain nombre d'admiration, parce que la mémoire des vaincus permet de redonner vie aux compagnons et d'échanger avec ses compagnons, en fait, hein, comme il vient d'être relu dans la préface, d'échanger en fait post-mortem avec un certain nombre de ces militants. Alors, donc, la mémoire des vaincus, pour ceux qui n'auraient pas en mémoire, je vais pas vous faire un résumé du livre, mais ça reprend les grandes heures et les grandes formes et les grands moments de l'histoire de l'anarchisme, et en fait Fred Barthélémy est un peu un idéal type de ce à quoi pouvait correspondre le mouvement libertaire et les libertaires du début du XXe siècle jusqu'à la presque fin du XXe siècle. Donc, il correspond réellement à une forme d'anarchisme. C'est un gamin de Paris qui est tour à tour, ou en même temps parfois, un peu trimardeur, marginal. Il devient ajusteur, soldat. Et puis, alors là, il y a un fort écho à la biographie de Michel Ragon, puisqu'il termine bouquiniste et que c'est, comment ça a été évoqué, ça a été un des métiers de Michel Ragon. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième, donc il y a l'aspect, on pourrait dire, social ou professionnel de Fred Barthélémy, qui recouvre en fait à peu près les métiers qu'ont pu avoir un certain nombre de libertaires. On aurait pu même rajouter, parce qu'il en manquait un, mais il ne pouvait pas, parce que sinon l'histoire changeait complètement, c'était correcteur, mais comme Fred Barthélémy croise un certain nombre de correcteurs, on va dire que c'est inclus dans le package. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est les grands moments et les grands temps de l'histoire libertaire. Alors, pour des raisons de chronologie évidente, il ne pouvait pas faire démarrer la biographie de Fred Barthélémy au moment de l'affaire Dreyfus, qui aurait pu être une autre entrée. Elle est un peu plus tardive, ce qui fait qu'on a quelques éléments qui viennent rappeler, j'y reviendrai dans le débat qu'il peut y avoir avec les libertaires par la suite, mais il y a la question de la propagande par le fait, alors unique à travers la fin de la bande à Bono, l'atmosphère patriotique de la veille de la Première Guerre mondiale, sur lequel je reviendrai aussi, les errements de la jeune Russie soviétique, le Paris des années 20 et 30 avec le Front populaire, ou comme il le formule dans le texte, qu'il appelle l'affront populaire. Puis les camps d'internement et enfin la fin de la libération et surtout à partir de ce moment-là le mouvement libertaire qui est marginal, marginalisé et puis qui finalement aime bien cultiver le splendide entre-soi qui a pu être le sien jusqu'aux années 90 au début des années 90 c'est pas au début des années 90 parce qu'il y a une première révolte en 1968 mais dans cette période-là, le mouvement libertaire qui semble sortir de sa torpeur. Donc il y a cette dimension, cette fresque historique. En troisième lieu, il y a aussi une réalité qui me semble relativement importante, c'est les lieux dans lesquels qui sont décrits à plusieurs reprises et que Ragon veut faire partager et veut restituer aussi et faire débattre en disant quels sont les lieux de prédilection de l'anarchisme. Alors on en trouve plusieurs. On trouve notamment l'espace qui a été peut-être un des plus familiers pour Ragon, qui sont les boîtes vertes des Quai de Seine. Mais c'est pas le seul. Il y a aussi un certain nombre d'autres éléments qui montrent cette sociabilité libertaire. Les librairies. Alors, d'abord, la librairie de Paul Delsalle, qui était rue Monsieur le Prince, ce qui correspond exactement à la réalité. Puis après, la librairie du libertaire rue de Belleville dans l'entre-deux-guerres, puis celle du quai de Vanmy. Et puis après, avec une note un peu plus tragique qui a été, ou triste, ou qui indique la fin de vie, qui était indiquée dans l'introduction de la mémoire des vaincus, c'est le crématorium du Père Lachaise, puisque ça fait partie des rites et des totems ou des lieux de passage, c'est peut-être pas le bon terme puisque c'est en général la destination finale, mais c'est des lieux qui participent d'une certaine mythologie, d'un certain nombre d'aspects du passé, des pratiques libertaires. Et c'est peut-être pas pour rien que la dernière demeure du héros, dans cette dernière demeure, il se retrouve aux côtés de personnages qui sont dans le roman, que ce soit Macnaud, Veline, Lecoing et quelques autres. Donc il y a cette dimension-là qui veut aussi faire partie de l'échange. Échange qui donne justement donc force à cette mémoire. Mémoire que Ragon a voulu faire porter. Alors il y a tout un Alors, c'est un roman donc, qui synthétise un certain nombre de vies qui sont des fragments de vie et dans lequel Michel Ragon veut rendre aussi et discuter, rapporter ce que ses anciens militants ont pu dire et essayer de leur redonner une vie, même si après il s'est aussi inspiré des mémoires de certains d'entre eux qui avaient pris la plume. Donc pour ce dialogue post-mortem, en fait, on retrouve donc une figure importante, on sait combien elle a été importante pour Michel Ragon, qui est celle d'Henri Poulaï. On retrouve deuxième figure assez centrale, au moins pour les années russes, le témoignage de Marcel Bodie. Alors même si on pourrait être circonspect sur Marcel Bodie et l'anarchisme, puisque c'est après la Deuxième Guerre mondiale que Bodie se rapproche réellement de la mouvance libertaire, notamment, alors même c'est plutôt dans les années 50-60 quand il commence à participer aux journaux de Le Coin, puis au Réfractaire qui est animé par Mépicret. Troisième personnage central qui dans cette participation qui a été un proche de Michel Ragon, c'est Gaston Leval, hein, mais bon, là je ne fais que rappeler ce que Ragon disait sur l'apport que les témoignages et la façon dont il a voulu faire revivre ses militants dans les mémoires des vaincus. On pourrait rajouter quelques autres personnages qui sont un peu plus en filigrane mais qui ont eu une importance qu'on ne voit pas forcément, c'est Nicolas Fossier par exemple, donc Nicolas Fossier qui était l'ancien administrateur du Libertaire Fred Barthélémy lui ressemble à un certain nombre de moments puisque quand il revient en France, il va travailler dans aux usines Renault où il rencontre Macnaud, mais c'est exactement la période à laquelle Fossier est aussi ajusteur chez Renault. Troisième exemple, alors même si c'est une toute petite touche, c'est aussi un autre personnage assez important dans le mouvement libertaire, alors qui était excentré, c'était Aristide Lapeyre, qui était connu notamment pour son combat néo-malthusien. Alors après, il y a d'autres éléments où il prend des libertés avec l'histoire, l'histoire du testament de Lénine que donc Fred Barthélémy aura ramené ne vient pas du tout des milieux libertaires puisque c'est Boris Fouvarine et Alfred Rosmer qui à ce moment-là n'étaient pas vraiment proches qui étaient proches de la mouvance trotskiste qui ont rapporté ces témoignages. On pourrait démultiplier les exemples, le rôle de Paul Delsalle est aussi central dans la construction et là aussi, alors même si je ne suis pas sûr qu'il est réellement beaucoup connu, mais en tous les cas, Paul Delsalle faisait partie des figures mythologiques du mouvement libertaire pour le rôle qu'il avait. Autre figure très importante que Ragon reprend au début et puis qu'on retrouve en filigrane. Alors là, par contre, on est sûr qu'il l'a beaucoup connu, c'est Rirette Maître-Jean. Et là aussi, on a une forme de dialogue sur à la fois le problème de la violence et de la propagande par le fait, puis l'évolution des militants, sachant que Rirette fait partie de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le monde des correcteurs à partir de 1923. Autre personnage très important, on retrouve des pages et un dialogue alors assez amusant dans la volonté de restituer son passé, même si Mépicret avait écrit ses mémoires, mais on a deux pages qui correspondent exactement aux mémoires de Mépicret dans la scène où elle défie Trotsky au Kremlin en chantant le triomphe de l'anarchie de Charles Davray. Et puis deuxième élément, alors là qui est plus amusant puisqu'il a transposé le genre, donc Fred Barthélémy, comme vous l'imaginez, est un homme, et en fait il reprend la fin de la vie de Mépicret quand Mépicret allait se bagarrer avec les CRS à la fin des années 70 jusqu'à la fin de sa vie et qu'elle animait les manifestations antinucléaires, et là on voit qu'il y a une correspondance et il a voulu quand même marquer, je pense, une façon de percevoir peut-être la vie militante différente de celle qu'envisageait Mépicret. Donc c'est aussi une forme de dialogue. On peut penser qu'ils se rencontraient, ils s'étaient rencontrés à de nombreuses reprises et que May lui avait raconté souvenirs. Donc, je pourrais démultiplier les exemples, je vais pas le faire parce que sinon vous n'aurez pas la suite. Ce qui est important, c'est bien voir que dans les mémoires des vaincus, il y a une volonté de rendre hommage à ces militants. Il y a aussi, deuxième deuxième lieu, de correspondre à une vulgarisation de l'idée libertaire et de porter un certain type d'anarchisme, un anarchisme à la fois social, mais un anarchisme assez individualiste et en... Alors, pas totalement, c'est pas un individualiste au sens vie communautaire, mais une forme d'anarchisme qui promeut l'individu, mais qui refuse un certain nombre de formes de violence. Et ça, cette mémoire des vaincus donc, va devenir une forme d'étendard, et ça va lui permettre, dans un deuxième temps, d'affiner un certain nombre de positions dans deux autres livres qui sont importants, qui sont la suite. Alors, il n'est pas... mais dont le succès qui a été La mémoire des vaincus, à mon avis, permis de faciliter la publication, c'est d'abord La voie libertaire et puis en deuxième lieu le dictionnaire de l'anarchie. Et là, Ragon change de statut par rapport à ce côté de chroniqueur ou de mémorialiste du mouvement libertaire où il voulait correspondre et faire valoir une certaine idée de l'anarchisme pour, dans un deuxième temps, redéfinition de l'anarchisme, mais montrer un certain nombre d'axes qui pouvaient être des impensés de l'anarchisme et donc tenter de faire, peut-être pas évoluer, parce que Michel Ragon ne s'est jamais pris pour un théoricien de l'anarchisme, mais en tous les cas, donner en tant qu'observateur amical, attentif et sympathisant de la cause libertaire, non pas un agermiento théorique, mais plutôt montrer qu'il y a un certain nombre d'aspects qui étaient des aspects en marge de la pensée libertaire. Alors, en fait, c'est pas nouveau, ça date pas de La voie libertaire ou du dictionnaire d'anarchie, parce que quand on reprend l'ensemble des participations de Michel Ragon à la presse libertaire, on se rend compte que ce sont des thématiques qui sont présentes, et qui sont présentes de manière relativement ancienne, puisque Ragon a signé plusieurs chroniques dans Le Monde libertaire dans les années 1950, alors principalement entre les années 54 et 68, dans lequel, et puis après 68, à l'initiative, semble-t-il, de Maurice Joyeux dans la revue La Rue, où il a apporté des éléments de réflexion importante sur la place que les libertaires devaient consacrer à l'art. Donc là, on est dans la correspondance intellectuelle. Quelle est la place de l'art? Quelle est la place de l'architecture? Quelle est la place de la ville? Donc il y a toute une réflexion et tout un échange et tout un débat qui se fait à travers les articles dans la presse libertaire et à travers... Alors là, ce dont on n'aura jamais l'écho, même si on sent que Joyeux, alors même si Joyeux n'en a fait qu'une ligne dans ses mémoires, mais on sent qu'il y a eu des échanges importants et des débats importants dans la librairie que Joyeux avait, qui était la librairie du Château des Brouillards, non loin de Montmartre, enfin sur la butte Montmartre. Donc il y a tous ces échanges qui sont en fait prolongés et où on retrouve les débats qu'il y a pu y avoir sur le mouvement libertaire, ses réflexions, ses formes de réflexion. Alors, alors je vais essayer de prendre deux exemples relativement brièvement. Dans La voie libertaire, on voit que donc c'est à la fois un ouvrage de vulgarisation de la pensée libertaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un texte destiné uniquement aux anarchistes, hein, c'est un texte qui est destiné à un public plus large. Mais on sent un certain nombre de débats qui sont sous-jacents au mouvement libertaire. Premier débat qui est important, c'est la question de la violence. Et plus, alors pour ce qui se rapporte au mouvement libertaire, principalement la question de la propagande par le fait et le fait que Ragon est en expliquant que c'est une voie sans issue. Donc il y a à la fois un jugement et un débat, parce que c'est une question qui a toujours traversé l'histoire du mouvement libertaire. Deuxième exemple, c'est les emprunts qui ont pu être faits par certains libertaires, alors pour faire vite, de Georges Fontenis à Daniel Guérin, le rapport au marxisme en tant qu'analyse de pensée. Et là aussi, on sent une distance assez critique sur sur cette utilisation du marxisme par la pensée libertaire. Inversement, on peut voir aussi que dans la réflexion, alors Raphaël en a parlé hier, je crois, donc je ne vais pas trop développer, mais dans la réflexion sur 68, Ragon était plus attentif à la jeunesse de mai 68 et à la figure de Cohn-Bendit que ce que pouvait en dire Joyeux. Donc là aussi, il y a une, ou Joyeux ou quelques autres, hein, il y a aussi un débat, une correspondance qui est enfin un débat, une correspondance intellectuelle et un échange intellectuel qui me semble assez important à souligner. Donc, ça, c'est le premier élément de cette espèce de, non pas de redéfinition, mais d'insistance sur un certain nombre d'aspects théoriques qui doivent être mis en avant. Et puis, le deuxième élément qui est aussi important, c'est tous les aspects de ce qu'on pourrait appeler l'anarchisme culturel. Où Ragon met le doigt, à mon avis, sur des points qui sont souvent délicats pour les libertaires. C'est le rapport, par exemple, de Céline à l'anarchisme. Alors, il n'y a aucune ambiguïté sur le personnage Céline. Hein. Il est considéré comme un abominable antisémite, collaborateur, etc. etc. Mais Ragon souligne ce qui a été le personnage Céline aussi, c'est-à-dire que Céline met en valeur et à plusieurs reprises évoque l'anarchisme, la marginalité et le fait que la littérature peut illustrer cette marginalité et peut devenir un porte-étendard. Alors c'est vrai qu'un porte-étendard comme Céline peut être un peu gênant après pour dans un certain nombre de cas. Deuxième exemple qui est aussi aux marges de l'anarchisme et aux marges de l'art, mais où Ragon essaye de débattre en disant mais non, il faut absolument intégrer les artistes, même s'ils ont un côté exubérant, marginaux, etc., etc., dans la pensée libertaire, et c'est toute la notice autour de Jean Dubuffet, Dubuffet étant un stirnerien absolu d'après la correspondance qu'il peut y avoir et d'après les écrits que peut en faire. Alors, dernier élément qui est important, c'est qu'aussi ça arrive à un moment historique relativement précis, qui est qu'on est en fin de la mémoire des vaincus paraît en février 90, la voie libertaire en 91, et donc on est en un tournant historique, puisque on est au moment où on est à la mort annoncée du communisme, et que le mouvement libertaire à ce moment-là semble renaître un peu comme le phénix, si je faisais du mauvais jeu de mots, c'est l'hydre de Lerne pour les initiés. C'était une brochure de Joyeux. Hein. Je ne veux pas faire que pour les initiés, donc Joyeux avait fait une brochure sur l'hydre de Lerne. Mais donc on a cette réapparition du mouvement libertaire. Donc ça, c'est le deuxième aspect qui est important, cet aspect de débat, cet aspect d'échange, cette volonté de dialogue. Dialogue qui était accepté, hein, puisque sauf et surtout les aspects, c'est ça qui est intéressant aussi, puisque la question vendéenne qui pouvait choquer un certain nombre de compagnons sur le thème, c'est peut-être la contre-révolution, en fait, n'a pas, sauf cas marginaux, n'a pas choqué. Et donc, d'autant plus que Ragon décale le propos en expliquant que c'est une insurrection à la fois populaire et anti-jacobine, donc même si elle est un peu matinée de catholicisme, c'est pas une dimension qui choque réellement. Ce que je veux dire derrière cela, c'est qu'il y a également une volonté de la part des libertaires, alors non pas de se servir de Ragon comme d'un porte-drapeau, mais plutôt comme d'un porte-parole, et de voir à travers le dernier point que je voudrais évoquer. Non, il ne veut plus marcher. Si, j'ai 3 minutes pour évoquer le dernier point. Donc, à travers le dernier point, qui sont les échanges. Les échanges, ça permet de voir la réception que les anarchistes ont pu avoir de Ragon, alors avec cette limite que j'évoquais au début, hein, qui est que, semble-t-il, une grande partie de la correspondance a disparu. Ce que j'ai pu consulter grâce à Françoise me montre que ces archives sont des des éléments assez disparates. Alors j'ai tenté quand même de faire une typologie de types de lettres reçues et échangées pour une raison, alors, parce que c'était compliqué de demander, parce qu'il y a toute une loi sur la correspondance qui existe, donc pour des raisons même de méthode, j'ai préféré anonymiser et ne pas citer les lettres directement, même si certains, ben non, il est plus ici, non, certains dans la salle se reconnaîtront peut-être dans certaines lettres. Donc on a plusieurs types d'échanges. Ces types d'échanges sont aussi liés au fait que Ragon a pris une autre dimension dans les années 90, qui était un peu la dimension d'une figure tutélaire et un peu d'un historien du mouvement libertaire, avec une liberté qui était en même temps qui vient des milieux libertaires, qui fait que les personnes qui pouvaient lui écrire avait une liberté de ton qu'il n'aurait pas forcément utilisé avec d'autres personnes, parce qu'il s'adressait à un compagnon donc qui s'autorisait plus facilement à demander des conseils et des avis. Alors, quel type d'échange on peut avoir ? Alors, premier échange, c'est... il n'est pas marginal, on en a quand même un pourcentage important, c'est les échanges avec les étudiants. Très important pour Michel Ragon, qui lui-même a été enseignant, et des échanges épistolaires demandant des conseils sur tel écrivain prolétarien. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que systématiquement, ces échanges, la personne qui écrit se revendique de l'anarchisme, mais après demande des conseils sur tel écrivain prolétarien, un autre sur le mythe de Durruti. Donc pourquoi il y a le mythe de pourquoi Durruti ressurgit dans la mémoire des vaincus, quelle est la force du mythe, ou un troisième sur tel ou tel point de la littérature sociale et de l'art social. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième élément, c'est aussi important, et on retrouve la mémoire des vaincus, et c'est les témoignages des familles de militants qui ont pu être présents, enfin, dont les itinéraires sont retracés dans la mémoire des vaincus, qui remercie Michel Ragon en fait d'avoir fait revivre tel ou tel personnage de cette mémoire des vaincus, avec un échange sur qui pouvaient être les aïeux, quels sont les souvenirs familiaux, parfois quelle est la mythologie, hein, puisque c'est des histoires de famille, donc il y a une tendance à grossir et à déformer la réalité, et avec une volonté d'échanger sur cette réalité et autre élément, un remerciement. Autre aspect, ce qui est plus marginal mais qui est assez intéressant, c'est qu'un certain nombre de personnes ont écrit, ils avaient participé au mouvement libertaire dans les années 60, on peut penser, parce qu'ils ne sont pas tous très dissertent sur leur engagement, mais ils avaient participé au mouvement libertaire, c'était pour X ou Y raison éloigné de ce mouvement libertaire, et par la découverte de la mémoire des vaincus, redécouvre cette histoire, et donc il y a un certain nombre de lettres de remerciement, alors d'anciens et toujours libertaires, mais un peu distants par rapport à ce mouvement, qui sont importantes. Ça, c'est un aspect. Enfin, c'est un troisième aspect. Donc, il y a cette dimension. On pourrait aussi noter un certain nombre d'interrogations de lecteurs sur tel ou tel point du roman. Parfois même des contradictions ou des analyses différentes. Alors, il y en a qui disent « Oui, mais sur la disparition de l'État, pourquoi Frédéric a monté ainsi plutôt ?» Enfin, ça renvoie à tous les débats. En fait, la mémoire des vaincus est pris comme un objet de débat et un objet historique, et finalement pose les questions beaucoup plus politiques que mémorielles de la participation de certains membres de la CNT à l'État espagnol dans les années dans les années 36-37. Ça, c'est pour des aspects qui sont importants, mais qui sont secondaires par rapport à ce qui est le plus important, ce sont les demandes d'aide militante. C'est-à-dire que par La mémoire des vaincus et par les deux autres ouvrages, Michel Ragon devient un certain nombre de personnes espèrent en faire un porte-parole et ne passe beaucoup de temps, il y a beaucoup de demandes pour solliciter la participation à telle réunion, à telle émission de radio, à tel journal ou donc des fanzines, alors parfois même assez ou des journaux tout à fait microcosmiques, on va dire, mais où il y a une demande. Alors bien évidemment, il ne peut pas répondre à tout, mais il y a une demande et puis il y a des demandes de participation aux réunions. Alors, en fait, le plus souvent, quand même, l'intervention majeure et les échanges les plus importants restent ce qui a été la colonne, ce qui a été la colonne vertébrale et ce qui représente l'organisation la plus importante, même s'il n'en a jamais fait partie. C'est toutes les œuvres. Toutes les œuvres et toutes les émissions autour ou soit de Radio Libertaire, soit du Monde Libertaire, où là les échanges sont les plus importants et les demandes sont les plus importantes. Alors là aussi, avec l'usage du téléphone, on peut imaginer qu'il y en a un certain nombre qui n'ont pas été écrites, mais dont on retrouve un peu ces correspondances dans les nombreuses interviews et interviews de Michel Ragon et interviews, alors dans le Monde Libertaire, puis sur Radio Libertaire. Enfin, dernière chose, ça peut être la correspondance pour essayer aussi d'obtenir le soutien. Alors, ça avait commencé le soutien de Ragon, soit pour une pétition, soit pour un militant qui a pu être incarcéré. Et là, il y a aussi toute une correspondance qui peut exister. Voilà pour ces échanges. Donc, qu'en dire pour conclure de manière définitive ? Qu'en fait, on est passé du compagnon. Alors, le compagnon de route, entre guillemets, l'expression est très insatisfaisante, mais du collaborateur régulier de la presse libertaire, qui s'éloigne pendant un temps pour des raisons professionnelles, puisqu'il a une activité intense éditoriale, qui l'éloigne un peu des mouvements libertaires. Et il y a un retour qui fait que Michel Ragon, par les échanges avec les anciens militants, le fait qu'ils soient devenus un peu leur porte-voix, fait que la correspondance devient le moyen pour les uns et pour les autres d'avoir un nouveau porte-drapeau, enfin, c'est peut-être pas le bon terme pour non plus, mais un nouveau porte-parole qui intervient tout en étant complètement libre de sa parole, et ce qui fait à la fois sa force et sa singularité dans les échanges avec les anarchistes et dans son propre rapport avec l'anarchisme. Voilà, j'ai pas trop dépassé le temps de parole.
Bien, merci Sylvain. On va prendre 5 minutes pour ceux qui veulent poser des questions.
Monsieur Ragon, gardait-il les doubles de ses réponses ?
Alors, il y a quelques fois, il y a des doubles. Il n'y en a pas toujours. Je pense qu'il y a des fois, il a envoyé la réponse directement. Il y a quelques fois où, quand c'est important, il y a des doubles. Mais surtout, il y a... Alors, peut-être qu'on pourrait retrouver, mais là, ça demandait une enquête très, très longue. Il faudrait retrouver chez tous les héritiers les originaux qui peuvent parfois exister des lettres, et en espérant qu'eux aient des doubles. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas de... Enfin, non, après, je ne sais pas, François, mais il n'y a pas... Oui, il y a. On n'est pas dans le cas, parce qu'on peut prendre la correspondance au départ, j'étais parti, puis j'ai oublié de vous le mentionner, mais par exemple, un autre écrivain proche du mouvement libertaire, qui était Albert Camus, a tout gardé, avait tout archivé tout le temps. Donc là, il y a la correspondance, le double de la correspondance. Comment ? Oui, il a une vie plus courte, mais après, je pense. Après, c'est aussi une façon de percevoir les choses différentes. C'est-à-dire que Ragon explique, par exemple, à propos de la correspondance avec sa mère, qu'à un moment, il a décidé de la détruire et il a finalement. Oui. Il a finalement gardé ou retrouvé qu'une lettre où il évoquait sa rencontre avec Henri Poulaille. Donc après, il y a aussi une. Voilà. Je ne peux pas préjuger, mais il y a aussi peut-être une volonté de ne pas avoir tout gardé. Ou ça peut être le hasard des déménagements, ça peut être le hasard. C'est les hasards de la vie. Il y a un moment où on peut garder, et puis à d'autres moments où on est obligé de jeter, et c'est peut-être la deuxième hypothèse. Peut-être qu'il ne voulait pas se transformer non plus en Fred Barthélémy, entouré de livres.
Une dernière question de Laurent.
Oui, rapidement, c'est savoir s'il y a une correspondance aussi avec des auteurs ou des penseurs anarchistes étrangers, non français.
Alors, il y a quelques échanges avec des Italiens et des Espagnols, mais bon, on est toujours dans le type de correspondance. C'est, alors, pour les Italiens, c'est plutôt qu'ils veulent faire traduire la mémoire des vaincus, et pour les Espagnols, c'est une demande d'aide, en fait. Mais on est toujours un peu dans le même type de sollicitation de correspondance parce que c'est devenu un porte-drapeau, un étendard, et que, enfin, un porte-drapeau, même si. Alors, je vous renvoie à toute l'histoire autour du drapeau. C'est-à-dire que le drapeau, c'est fait pour marcher dessus. C'est pas fait pour être brandi, en fait. Donc, il y a tout cet aspect. Donc, le terme porte-drapeau, c'est plus une réflexion et une volonté de vulgariser, de faire progresser la voie libertaire ou les voies libertaires.
Je voudrais ajouter que Michel a quand même beaucoup, beaucoup donné. À chaque fois qu'il avait quelque chose de nouveau, il l'envoyait au CIRA à Marseille.
Oui.
Donc il y a certainement beaucoup de choses à Marseille, même peut-être de la correspondance.
Oui. Mais je n'ai pas vu.
Il renvoyait tout, je me souviens. Tout ce qui arrivait, il le faisait suivre. Je ne sais plus comment il s'appelait.
René Bianco.
Ouais.